qui est le numéro 1 ?
Radio Z.
Attention, vous entrez dans la
Radio Z
dimension.
Bonjour, monsieur les auditeurs, madame les auditrices. Vous êtes bien sur Radio Arte, Radio Z. Alors,
bonjour tout le monde. Oui, c'est parce que le blog, c'est Arte. Il faut taper Arte, c'est pour ça la confusion.
Alors, aujourd'hui, il va y avoir...
Alexandre.
Qui va nous faire une chronique, suivie de Sybille, suivie de Guy.
Bonjour.
Alors, on va commencer par la chronique de Alex.
Alors, je vais commencer par ma chronique. Je vais l'appeler ceinture de vérité. Et je commence par quelques vers de Paul Valéry. Fille des nombres d'or, forte des lois du ciel, sur nous tombe et s'endort un dieu couleur de miel.
C'est beau ça. Cette ceinture, tu sais ce que ça me rappelle ? Tu as lu les 12 travaux d'Hercule ? Il y en a un où sa mission est de récupérer la ceinture de l'Amazone. Et donc, il y arrive et ils ont des enfants, un petit garçon et une petite fille. Le petit garçon, c'est Hercule qui s'en occupe. La petite fille, c'est son Amazon.
Et donc, moi, j'allais vous parler du nombre d'or avec ces vers de Paul Valéry. Donc, le nombre d'or est comme le nombre pi, un nombre infini qui commence par les quatre chiffres 1,618. En géométrie, il se présente notamment dans le pentagramme, mais aussi dans la feuille de format A, comme la feuille de format A4, ou A3, ou A5, qui n'est autre qu'un rectangle d'or. On le retrouve aussi dans les proportions du corps humain, dans son ensemble, de l'oreille jusqu'à la main, de la jambe jusqu'à la cuisse. Mais aussi dans la coquille du Nautilus. On l'appelle aussi le nombre phi, pour le discerner du nombre pi, du nom du sculpteur Phidias qui a conçu le Parthénon grec.
Et excuse-moi, c'était le nombre d'or, on appelle ça le nombre d'or aussi parce que ça réunit des critères de beauté absolue.
Exactement, on appelle c'est la proportion divine, la divine proportion. On l'a reprise dans la feuille de format A4, notamment.
Il y a pas mal de tableaux aussi très connus qui sont dans ces dimensions-là, non ?
Alors, il y a non seulement dans les dimensions, mais dans les compositions. On le retrouve dans la scène de Dali, comme chez Michel-Ange. Donc, dans toutes les cultures et dans toutes les générations, ce nombre revient souvent.
Alors moi, je connais le triangle d'or en Asie.
En Asie.
Les trois villes, les trois pays qui produisent de l'opium.
Ah oui, mais du coup, c'est pas pour les mêmes raisons que ça s'appelle d'or, alors. C'est pas pour des raisons de proportion.
L'opium, ouais, c'est la denrée de l'Empire britannique de l'époque.
On appelait ça l'argent du peuple, donc moi, on appelait ça. L'opium du peuple. L'opium
la religion peuple. Et l'opium du peuple.
Oui, c'est voilà. Ça, il y a une expression où il y avait voilà. Ça, oui, voilà, c'est ça. Voilà.
Donc, même dans la musique, un compositeur qui s'appelle Yanis Xenakis reprend le nombre d'or. Et l'architecture, Le Corbusier, qui est à l'origine de la Cité radieuse de Marseille, le réutilise. Ce nombre scientifique fait rêver même les Rose-Croix, une société secrète qui voit derrière les pyramides d'Égypte et le mystère de l'Atlantide. Bref, tout un délire mythico-scientifique.
Comment ça se calcule alors ?
Alors, si on prend une feuille A4 et que vous la pliez en triangle, comme ceci.
Bientôt, avez... bientôt, pour les auditeurs, on aura la version filmée des émissions sur, accessible sur YouTube.
Donc vous pliez un triangle, puis vous rabattez ce qui reste, le long parallépipède qui reste en plus. Donc vous avez donc un carré dont le triangle est l'hypoténuse.
La diagonale du carré, ça la fait l'hypoténuse du carré. Des deux triangles. Vous suivez, j'espère. Hein.
Oui, bien sûr.
Et le rectangle d'or, en fait, il s'agit en fait de prendre un compas et prendre le milieu de ce carré comme centre. Donc voilà, je plie le carré en deux.
Et on a...
Et donc vous prenez un compas, vous le pointez ici, vous le mettez à l'extrémité opposée, et hop, vous tracez avec votre compas votre cercle. Et je ne sais pas trop l'expliquer en mots. ce que ça donne.
Mais c'est qui est-ce qui a découvert que ce nombre-là était particulièrement beau ? Enfin, ça date de quand ? Est-ce qu'on sait qui c'est ?
Ben, on raconte que ce nombre est présent jusqu'aux pyramides d'Égypte.
Et qu'elles ont été conçues à partir de ce nombre-là ?
C'est un peu comme le 666.
Le 666. Le 666, c'est le triangle isocèle qui a 60 degrés de côté. D'angle.
Ah, ok. Ok.
Et oui, il y a trois angles de 60 degrés.
Donc, c'est de la même époque ?
L'Antiquité a beaucoup réfléchi à l'observation de la création.
Oui, à l'espace-temps,
de l'environnement,
à l'infini, tout ça, oui, c'est vrai.
Et ils ont retrouvé des nombres qui se retrouvent à la fois dans le corps humain, comme dans le règne végétal, comme dans le règne animal. Et ils l'ont réutilisé pour l'architecture, et la sculpture, et les arts.
Ok.
Bon, ben, très bien. Bravo Alex, merci pour tout. Si vous voulez réagir, vous allez sur audioblog Arte Radio Z. Voilà, et nous allons poursuivre avec Civil, qui va nous raconter un livre. Alors, ce livre, c'est qui ? C'est quoi ?
C'est un Sherpa dans le Mercantour. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un Sherpa ?
Tu me l'as expliqué la semaine dernière.
Un Sherpa, c'est une personne qui porte les affaires des autres. Ça se passe en Amérique latine, principalement, ou au Tibet aussi. Et c'est une personne qui est chargée de porter les affaires des autres pour les autres en donneur. Et c'est leur gagne-pain, quoi. Ils vivent de ça. Voilà. Et c'est eux qui installent les tentes le soir, qui leur font la cuisine, pour les aider à faire leur travail correctement. Voilà. Pour aider les randonneurs à aller dans les meilleures conditions possibles.
C'est un Sherpa, donc, dans le Mercantour.
Ben, voilà, c'est un Sherpa qui habite dans le Mercantour. Et qui est venu en France et qui va vers la Gordelasse, je ne sais pas si vous voyez où c'est.
Oui, c'est pas loin de Saint-Martin-Vésubie.
Voilà, Saint-Martin-Vésubie, Tende, il se balade dans ces régions-là.
C'est son récit à lui ?
Oui, c'est son récit à lui. Et en fait, il se balade avec un autre randonneur. Et cet autre randonneur décide d'amener sa femme. Et sa femme n'est pas du tout pour. Elle est institutrice, elle fait beaucoup de fitness, mais elle n'aime pas le sport en montagne, quoi.
Elle préfère Fitline au Mercantour.
Au Mercantour, voilà. Et puis elle dit, j'ai pas envie de porter mes affaires. Il dit, mais on est elle s'engueule avec son mari lui dit, mais ne compte pas qu'on va te porter tes affaires, tu les porteras toi-même. C'est pas comme Sherpa, donc tu porteras toi-même ces affaires. Et ils arrivent, donc finalement, après de nombreuses disputes, ils arrivent à se faire une raison de faire cette randonnée ensemble. avec d'autres randonneurs aussi, hein, ils sont plusieurs, ils sont toute une bande de randonneurs. Et ils découvrent un os. Il y a cet os, c'est le tibia d'une personne qui avait fait un attaque en montagne, qui était décédée. Et c'est elle qui découvre l'os, et elle ne sait pas si elle doit en parler ou pas. Elle doit en parler à la famille. Alors on lui conseille d'en parler à la famille, et puis là, il y a le Sherpa qui raconte toute sa vie. Il disait, mais moi, de toute façon, pour faire des maisons, on les construit avec de la bouse de yak. Quand les murs s'effondrent, on les fait brûler. Comme c'est sec, ça n'a pas d'odeur. Et il disait, les morts, nous, on ne les enterre pas. On n'a pas les moyens de les enterrer, donc on les fait brûler vivants, quoi. Vraiment, ils sont morts, mais on les brûle comme ça, comme un bûcher, quoi.
Et là, dans le Mercantour, c'est ça?
Non, ça, il raconte ce qui se passe dans son pays.
Ah oui, d'accord.
Et le tibia qu'il découvre, par contre, c'est le tibia réel d'une personne, d'un Français qui s'est perdu, qui a eu un accident et dont on n'a plus retrouvé la trace.
D'accord.
Et sa femme, ça fait des années qu'elle cherche sa trace.
Ok.
Voilà.
Mais donc, dans le livre, il y a des passages dans le Mercantour, et il y a des fois où
il parle de
son expérience avant, voilà, dans son pays.
Ce livre, il est plein de descriptions sur le Mercantour, j'imagine.
Sur le Mercantour, oui. Il y a pas mal de descriptions sur le Mercantour.
Et il apporte aussi sur l'histoire de l'Inde.
Du Tibet, oui. Enfin, du Népal.
Du Népal.
Du Népal, ouais.
Pays ancestral du Sherpa.
Oui.
Et en deux mots, tu dirais quoi d'autre?
Il raconte, à la fin du livre, j'en suis à la fin du livre, il dit que malgré tous les avantages qu'il y a à vivre en France, avec les facilités qu'il y a à vivre, les facilités qu'il y a à faire de la montagne, de la randonnée, enfin, pour lui, c'est facile, parce que par rapport à ce qu'il a vécu avant, il n'avait pas tous les bagages à porter, c'est facile, mais il préfère quand même son pays, même malgré toute la pauvreté dans laquelle ils vivent, même s'ils n'ont pas d'électricité. Il dit on n'a pas d'électricité, mais on a des portables. Il dit, mais comment vous faites pour brancher vos portables? On fait des kilomètres, et puis on va à des endroits où tout le monde peut brancher son portable.
Et est-ce qu'il explique ce qu'il préfère dans son pays plutôt qu'ici?
C'est traditionnel, en fait. Traditionnel, il n'arrive pas à se faire à...
Il est trop habitué à sa propre culture,
même si la vie est beaucoup plus souriante en France. Il préfère galérer dans le Népal.
Et donc, c'est vraiment basé sur des faits réels, ou est-ce que c'est un peu romancé?
Non, je pense que c'est sur des faits réels.
Et actuellement... Pardon, vas-y. Non, je me demandais si actuellement, c'était... Et du coup, il continuait à être Sherpa dans le Mercantour, ou s'il était retourné au pays, justement.
Ça, j'en sais rien, parce que j'ai pas fini. Ça, c'est la fin du livre. La fin du livre, c'est la découverte de ce tibia. Donc, est-ce qu'ils vont l'annoncer ou est-ce qu'ils vont pas l'annoncer? Est-ce qu'ils vont l'annoncer parce que comme il a ce tibia entre les pattes, il n'a pas envie de s'en encombrer, parce que pour lui, ça n'a pas la même signification qu'en France. Et puis on lui dit, si, il faut absolument en parler, parce que ça permettra à la dame de faire son deuil. Et lui, comme pour lui, on brûle les os comme ça dans la montagne, il a du mal à comprendre, quoi. C'est tiré d'une histoire vraie, parce qu'ils disent, enseignante et conseillère pédagogique à Nice, Maflon Ravella a écrit une dizaine d'ouvrages de littérature après avoir obtenu en 2008 le premier prix de la montagne décerné par la commune de Saint-Martin-Vésubie, et se lance dans l'écriture pour adultes, faisant suite à son recueil de nouvelles de dialogue à Castérine. Elle s'initie son deuxième roman, Drame vertical en cordon lasse, paru en 2013, où elle nous fait partager son amour pour la montagne par le biais de la rencontre de culture française et népalaise, région qu'elle connaît aussi bien pour y avoir pratiqué de nombreux treks.
Et est-ce qu'il t'a plu, ce livre?
Ah oui, j'ai adoré.
Et pourquoi?
Ben, j'ai adoré parce que ça parle pas de sujets superficiels, quoi. Il parle de vraies valeurs. À un moment, il y a même un poème que j'ai trouvé très joli, si j'arrive à le retrouver.
Bon, enfin, sans forcément le dire, pour laisser la surprise à ceux qui voudraient le récupérer, À la bibliothèque de la Fédération, peut-être. Tu l'as emprunté?
Oui, oui.
Rien la à pub voir, au passage.
Rien à voir avec la Vallée des Merveilles.
Si, si.
Oui, oui.
Oui, oui. Ils font un trek dans la Vallée des Merveilles.
Il y a un bus qui y va, c'est vivement conseillé d'y aller, c'est magnifique.
Mais c'est grand, la Vallée des Merveilles. Hein. Mm.
C'est grand, mais par contre, il y a la zone où il y a les gravures, elle n'est pas si grande que ça. Mm. Mais elle n'est pas accessible normalement sans un guide. Parce qu'ils ont peur que les gravures soient détériorées. Donc pour y accéder, il faut y aller avec un guide, ouais. Avec un sherpa.
Bon, ouais, bah merci. Il demande si la promiscuité aurait-elle raison de la bonne ambiance, une sinistre trouvaille, donc le fameux tabia perturba-t-elle le cours de ce raid montagnard? L'amour pourra-t-il dépasser les différences de culture? Parce que le sherpa est amoureux de la femme du guide.
Ah voilà, ils ont mis une histoire d'amour au milieu, évidemment, pour maintenir le lecteur attentif.
Non, non, mais ils en parlent très peu.
Ah bon, c'est pas le centre du sujet.
Non, le centre du sujet, c'est surtout... toi, tu te régales à lire ça.
Ah ben je pense, en tout cas, le tir m'attire déjà. Mmh.
Parce qu'ils expliquent la façon dont ils préparent tous leurs voyages, toutes les régions qu'ils visitent, et à la même manière de voir les choses, ils prennent le train d'Épigne. Et puis ça parle vraiment de ça, ils parlent de Saint-Martin-Vésubie, ils parlent de...
À la Fédération, on a un peu des sherpas, parce que quand on sort avec les patients, on leur fait tout porter.
C'est vous qui portez tout?
Non, on partage les affaires, c'était la petite blague.
Alors, merci Sybille pour la présentation de ton livre. On va passer à la chronique de Guy.
Oui.
Apprêtez-vous à rire.
Eh bien non, même pas aujourd'hui. J'ai relu, c'est pas du tout drôle. Hein, donc j'espère que ça va pas être trop ennuyeux. Moi, j'ai préparé une chronique sur le thème de l'éducation. Et plus précisément sur... je me suis posé la question de est-ce que c'était différent une sanction d'une punition? Alors, est-ce que vous pensez que c'est différent déjà, avant que je commence?
Une sanction, ça veut dire quelque chose que tu payes.
Toi, tu penses que c'est différent aussi, Sybille?
Oui, je ne sais pas comment dire en quoi c'est différent. Une punition, c'est priver quelque chose de quelque chose. Priver quelque chose de quelque chose.
Quelqu'un de quelque chose.
Quelqu'un. On m'a compris. Priver quelque chose à quelqu'un. Alors qu'une sanction. Eh ben, c'est
une addition. C'est...
Non, c'est pas la même chose.
Alors moi, mon intuition était comme Sybille. Elle me disait que c'était pas la même chose, mais j'arrivais pas à savoir pourquoi. Alors, j'ai un petit peu creusé la question et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, mon point de départ, je n'ai pas parlé d'éducation, j'ai parlé de voiture. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour assurer la sécurité sur les routes, notre société, elle a mis en place les limitations de vitesse. Et pour que ce cadre soit respecté, on a inventé les radars. On a inventé les radars. Donc le rôle des radars, c'est de permettre d'identifier les personnes qui ne respectent pas cette règle. Et une fois que ces personnes sont identifiées, avec la plaque, l'immatriculation, etc., on a imaginé deux traitements. L'amende et le retrait de points. Et c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Et c'est à partir de là que je fais la différence entre sanction et punition. Parce que la philosophie de l'amende repose sur l'idée que c'est en nuisant à une personne que l'on parviendra à l'empêcher de nuire aux autres. La nuisance, elle n'est pas en lien avec le préjudice, et elle comporte une notion d'injustice dans le sens où le montant, il n'est pas proportionnel à notre revenu. C'est-à-dire que si on est riche ou pauvre, on va payer pareil. Donc on pourrait dire quelque part que la personne qui est riche, elle peut s'octroyer le droit de transgresser puisqu'elle a les moyens de payer ses amendes. Donc pour moi, ça, c'est dans le registre de la punition. La philosophie du retrait de points, elle repose plus sur l'idée qu'un acte entraîne une conséquence. Cette conséquence, elle est en lien direct avec le préjudice. Et il n'y a pas de notion d'injustice, puisque tout le monde est logé à la même enseigne, qu'on soit riche, pauvre, blanc, noir ou quoi. On a tous le même nombre de points et on nous en retire la même quantité lorsque l'on commet la même infraction. Infraction ou effraction ? Je sais plus. Infraction. Donc là, on est dans le registre de la sanction. Donc je voulais partir de cet exemple pour développer ma réflexion, parce que je trouve qu'il met en lumière de façon très parlante les différences entre ces deux notions qui sont finalement aussi proches que lointaines. Et ces différences, elles sont pour moi à l'origine de beaucoup de confusion en matière d'éducation. Je dirais qu'il y a un piège qui serait à éviter, c'est de remplacer un principe par un autre principe. Mais j'ai le sentiment qu'avant, il y avait une idée qui était très répandue, c'était que l'enfant doit passer par des expériences de honte ou de culpabilité pour comprendre ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais le piège, ce serait de remplacer par un autre principe qui serait l'idée qu'il ne doit absolument jamais rien vivre
de traumatisant,
de négatif. Alors qu'à mes yeux, il est souhaitable de rejeter les méthodes violentes de culpabilisation, etc. Mais ce qui est dommageable, c'est de rejeter dans le même temps la notion de limite. Et il s'agit, donc pour moi, de ne pas confondre sanction et punition. La sanction, à ce moment-là, devient nécessaire parce qu'elle permet à la personne de se confronter à la réalité, une réalité qui est palpable, concrète et structurante. Et c'est elle qui dessine un petit peu les contours de l'espace des possibles. Alors que la punition, c'est simplement un rajout qui ne sert à rien. Elle naît de l'idée que la confrontation à cette réalité, elle n'est pas suffisante et que pour que la personne comprenne vraiment que son comportement n'est pas souhaitable, il faut alors partir, comme tu le disais, Sybille, à la recherche de quelque chose que la personne, elle aime faire, si possible qu'elle aime vraiment beaucoup faire même, et on lui en prive et on croit comme ça qu'elle va s'améliorer. Tu voulais réagir ?
Non, Agnès ? Vas-y, finis.
Alors, du coup, on a les deux fonctionnements. Celui où, par peur que les enfants ne respectent pas les règles de conduite en société, on rajoute la punition à la sanction. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'autoritarisme. Mais finalement, c'est un monde où les enfants, ils respectent ce qu'on leur demande simplement parce qu'ils ont peur des adultes ou parce de leur châtiment, ou à l'inverse, parce qu'ils recherchent un amour, mais qui est un amour un peu conditionnel, finalement. Et de l'autre côté, celui où, par peur que les enfants ne puissent pas évoluer librement ou par peur qu'ils ne nous aiment pas ou je ne sais quoi, on laisse tout passer et on enlève même les sanctions. Et à ce moment-là, on pourrait appeler ça le laxisme. Mais là, le risque, c'est que les enfants soient tellement perdus, parce qu'ils n'ont pas de repères, bah, qu'ils savent même plus ce qu'ils désirent et qu'ils n'ont plus de considération pour ce que désirent les autres. Alors,
est-ce qu'on est obligé de passer par une sanction ? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que... On dit derrière les bisounours, hein, mais que les enfants aient une direction où... Il ne soit pas passé par la punition ou la sanction.
C'est ça. Au lieu de parler de bâton, parlons de carotte. Ouais.
Alors, c'est intéressant, mais moi, je dirais que la récompense n'est que le... Ça fait partie de la même réflexion pour moi que la punition. C'est juste le pôle inverse, mais ça part du même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on pense que la réalité, la confrontation à la réalité ne suffit pas. On pense qu'il faut... rajouter quelque chose pour qu'ils comprennent bien, ça c'est bien. C'est du conditionnement aussi, en fait.
En rendant les enfants responsables. C'est-à-dire, moi, je verrais, par exemple, une paye où tous les mois, selon ta moyenne, tu gagnes tel ou tel argent, tant ou tant d'argent.
Bonne idée.
Par exemple, on va dire 100 euros le point. Si tu as 5, tu as 500 euros. Si tu as 15, tu as 1500 euros. Un, ça les rendrait responsables. Deux, ce serait un moyen de...
Pour les parents riches, hein.
Je vois où tu veux en venir, mais je trouve que ça... Enfin, pour moi, ça détourne aussi le fait que l'enfant fasse quelque chose simplement parce qu'il sait que cette chose est bien. Et là, il va la faire parce qu'il attend
la récompense. Mais la récompense, il peut l'avoir d'une autre manière. Je veux dire qu'il lui donne de l'argent, qu'il lui donne autre chose.
C'est déjà rentré dans la vie quotidienne du français.
Tu veux dire dans le sens où nous, on vient, on travaille, et ce qui nous motive à venir travailler, c'est aussi parce qu'on gagne de l'argent.
Bah oui.
Oui, ça c'est pas faux, oui. Ça c'est pas faux. Je me suis posé la question par rapport aux deux fonctionnements, on va dire autoritarisme et laxisme, qu'est-ce qui pouvait animer le fait d'agir de cette manière ? Et l'autoritarisme... J'ai l'impression que il est animé par la volonté de trouver, de mettre en œuvre des méthodes qui marchent tout de suite.
Bah, disons très que vite. Le laxisme, souvent pour l'enfant, quand les parents sont laxistes, c'est la sensation que les parents n'ont rien à fichtre de toi, quoi.
Oui, ça peut donner cette sensation-là, tout à fait. Mmh. Et puis
donc, du coup, l'enfant, il fait ce qu'il veut et il respecte pas forcément ses parents. face à leur laxisme. Il se sent plus fort, peut-être, ou par rapport à ses parents, tu vois.
L'autorité a quelque chose de bon.
Oui.
Après, il suffit d'être dans la juste mesure.
Alors, qu'est-ce que ce serait, cette juste mesure? Et là, c'est super, parce que c'est un peu ma conclusion. Mais
le bien commun.
La
recherche du bien commun.
À la fois de l'enfant et de ses parents, par exemple, c'est ça que tu veux dire?
Moi, je pense aussi qu'il faut responsabiliser les enfants, surtout qu'ils sont de plus en plus matures. Plus les années passent, maintenant, les gosses de 10 ans, ils font ce que je faisais à 15 ans.
Et alors, est-ce que vous connaissez cette citation de Molière dans je ne sais pas si vous avez déjà lu, Le Misanthrope?
Oui.
À un moment, il me semble que c'est Alceste, je ne suis pas sûr, mais qui dit...
Oui, c'est ça.
Que la voie du milieu est toujours la meilleure. Vous vous rappelez de cette citation dans ce livre?
L'équilibre.
Ouais, où il dit en gros, bah, à chaque fois il y a un extrême, il y en a un autre, et bah, tu fais un peu une synthèse des deux, tu te mets au milieu, en général c'est toujours là que ce sera la décision la plus sage. Mmh. Et du coup, moi j'ai le sentiment que par rapport à cette question-là, c'est un petit peu ça, c'est que en fait il y a quelque chose entre être trop autoritaire ou être trop laxiste. Et alors, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, est-ce que ce n'est pas la coopération, tout simplement? C'est-à-dire, ce n'est pas les pleins pouvoirs à l'adulte qui décident de tout, ni les pleins pouvoirs à l'enfant qui déciderait de tout, mais c'est des pouvoirs en commun, dans le but est d'essayer de garantir un climat le plus harmonieux possible pour tout le monde. Du coup, ce qu'on pourrait appeler tout simplement de la coopération.
L'arbitrage aussi.
Ou l'arbitrage, oui. Ouais. Mais l'arbitrage, qui est l'arbitre?
Celui qui connaît bien les règles et qui a été instruit.
Donc ça donne un peu plus de pouvoir à l'adulte, du coup, sûrement.
Oui, je pense que tout de même que celui qui a de l'expérience est beaucoup plus sage.
A plus de...
Mais il y a aussi le regard de l'enfant qui est un peu plus... parfois riche d'enseignement.
C'est ça qui n'est pas facile à déterminer, parce que l'expérience, elle apporte beaucoup de choses, et en même temps, la fraîcheur et l'innocence en apportent d'autres. Donc c'est pour ça. Peut-être que ça dépend des situations. Dans certaines situations, c'est plus judicieux, effectivement, de donner plus de pouvoir à l'adulte. Par exemple, puisqu'il s'agit de la sécurité, peut-être qu'un enfant, il n'a pas conscience quand il traverse une route qu'il peut se faire écraser par une voiture. À ce moment-là, il vaut mieux être...
Rassurant,
voire autoritaire, et dire qu'il n'a pas le droit de traverser tout seul. Mmh. Il y a d'autres moments où ce n'est pas nécessaire.
Il y a plein d'enfants qui ne veulent pas tenir la main de leurs parents, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils en ont ou quoi. Ils refusent de tenir la main de leurs parents pour traverser la route.
Ça, je n'ai jamais tenu la main.
Mais là, pour le coup, trop de laxisme, ce serait vraiment dangereux.
Ah oui,
quoi.
Mais même quand on dit si tu me tiens la main, ils ne veulent pas arriver à rien savoir. Ils disent non, je ne te tiens pas la main.
Voilà. Mais tu forces, hein.
C'est moi la main.
Tu sais que la fessée est interdite en France.
Oui, depuis pas longtemps.
Ouais.
Je sais pas comment ils vont s'y prendre pour faire appliquer cette loi, mais.
Oui, mais il y a plus fessée, quoi. Je veux dire, une petite tape sur les fesses, c'est pas une fessée.
Et alors, comment on fait pour faire la différence? Il faudrait mesurer la puissance ou les décibels des cris de l'enfant après.
Non, mais les décibels des cris, l'enfant il peut faire le cinéma aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu me touches, je hurle.
Moi, j'avais droit à la douche froide, tout habillé.
C'est pas mal aussi. Ouais. C'était pas rigolo, non?
C'était pour te calmer.
Ouais.
Mais ça calme pas, ça fait que c'est encore plus une douche froide tout habillée.
Ça, du moins, ça montre que... Enfin, vous savez, il y en a certains, ils choisissent de montrer que le feu brûle aussi. Ouais.
Ben, ça, ce serait l'idée, quand je disais tout à l'heure, se confronter à la réalité. Finalement, par exemple, dans le cas de... Est-ce que je le laisse s'approcher du feu ou pas? Mais la réalité, elle va vite le bloquer de toute façon, parce que soit enfant ou pas enfant, quand il va avoir chaud, il va dire « Ah, ça brûle » et il va s'en aller. Hein.
Oui, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Tu regardes, moi, j'avais 7 ans, c'était la fête de la musique, et il y avait à la fête de l'école, et il y avait une estrade. Après la fête, avec mes copains et copines, on joue aux quatre coins sur le... comment on appelle ça
l'estrade, la scène.
Et Et ma mère me dit, attention, tu vas tomber, et elle s'en va. À peine elle a franchi le seuil de l'entrée, boum, je suis tombée par terre sur mon coude et fracture ouverte. Elle aurait pu me sauver la vie.
Oui, oui, non, mais t'as raison. Il y a des moments où, effectivement, il vaut mieux empêcher. Mettons, on pourrait dire l'inverse. Là, dans l'exemple du feu, si...
La fracture a été une leçon.
Une leçon un peu difficile.
Un peu
douloureuse, là.
Oui, mais si on laisse jamais s'approcher... Mais, enfin, on va dire, ah non, pas plus près de 3 mètres du feu, et qu'il ne peut jamais se rendre compte par lui-même que le feu, c'est chaud, est-ce qu'il intègre vraiment cette règle?
Je crois que tous les enfants savent ce que c'est que le feu, ouais.
C'est une image que j'ai donnée, le feu. Parce que moi, j'ai été un petit enfant roi, par exemple, qui a grandi sans grande sagesse. J'ai fait beaucoup de conneries sans me rendre compte qu'en fait, j'en faisais.
Oui.
Et qu'on m'a pas montré que j'allais tout droit à l'asile psychiatrique.
Et comment, question, tiens, mettons dans le cas plutôt de trop d'autorité. Comment un gamin, il peut s'émanciper
d'une
famille trop autoritaire?
Il ne peut pas s'émanciper.
Ah bon? Comment ça?
Soit il prend la tangente pour échapper à la famille trop autoritaire, soit il reste dans ce milieu-là parce qu'il n'en connaît pas d'autres, et puis, ou alors il va choisir un boulot en fonction, gendarme... militaire, je sais, moi.
Et ben alors, dans les deux configurations que tu as données, il y en a une où il...
Oui, oui.
Mais ça ne se fait pas sans difficulté, c'est ça que tu veux dire. Ça se fait
sans difficulté, oui. Parce que quand il a pas, s'il n'a pas les structures strictes qu'on lui a données, enfin moi je parle dans mon cas personnel, hein. Moi j'ai eu des structures très strictes et ça ne servait à rien, quoi. Dès qu'on les a enlevées, je faisais tout exploser toutes les barrières, quoi.
Oui, si on sort un petit peu du cadre qu'on connaît habituellement, qui est très très serré, on est perdu, quoi. Mmh. C'est ça que tu veux dire ou pas?
Ouais. Ouais.
Et donc tu dis que soit on est tellement habitué qu'on veut même pas en sortir, même si on sait que c'est pas génial, soit on en sort, mais c'est compliqué et ça peut passer par arrêter de relations avec ses parents, etc. Mmh.
Pour vous, des parents autoritaires, c'est des parents qui te gardent pour eux ou c'est des parents, par exemple, qui peuvent t'envoyer en pension?
On sait ce qu'on a fait.
Ce serait quoi l'autorité?
Alors, c'est une bonne question, mais je ne sais pas si... J'ai l'impression que c'est deux débats différents.
Oui, oui, c'est vrai.
Après, il y a plusieurs cas, plusieurs façons de réagir.
Oui.
Selon tout à chacun.
Là, ce qu'il faudrait voir dans ton exemple, c'est quelles raisons les poussent à prendre tel choix et tel autre choix.
La rébellion face à l'autorité.
C'est ça.
Ouais, moi, il me semble qu'on n'a pas 36 choix. Hein. C'est rébellion ou soumission, quoi, hein, quelque part. Bon, moi, je vous avais prévenu, c'était pas rigolo. Hein.
Et alors, justement, pour parler d'égalité des classes, on a remarqué que les fils d'ouvriers devenaient plus ouvriers, que les fils de cadres devenaient plus cadres. Et c'est dommage dans un pays où on parle d'égalité que ça se passe encore comme quelque chose d'ancestral.
Oui, tu as raison. Mais ça, est-ce que c'est pas justement ce que disait Sybille, que quand tu grandis dans un certain cadre, certains milieux, bah, tu veux... C'est la facilité que de reproduire, ou alors des fois c'est simplement par manque de moyens, parce que si, peut-être que des personnes qui sont ouvriers n'ont pas les moyens de payer des études à leurs enfants ou quoi.
Il y a aussi c'est l'esprit corporatiste où le savoir se transmet de génération en génération depuis l'époque médiévale et que chaque génération y apporte sa touche d'évolution. Et
tu vois ce que tu disais sur le nombre d'or, par exemple, c'est quelque chose dont j'en avais parlé, mais je ne savais pas quand tu l'as décrit, je ne savais pas comment ça marchait. C'est quelque chose dont j'avais entendu parler. Mais moi, ce qui m'a manqué, c'est la culture de mes parents. J'ai trouvé que mes parents m'ont manqué de culture et qu'ils ne m'ont pas transmise. Alors que si j'avais eu des parents qui étaient plus cultivés, je pense que j'aurais pu me la transmettre et me transmettre d'autres valeurs.
Oui, on prend aussi ce qu'on nous donne.
Oui.
Peut-être qu'il y a une défaillance au niveau de l'école, peut-être que l'école, elle pourrait, si elle était mieux organisée, pourrait peut-être mieux réguler ces
inégalités. Moi, en plus, j'ai un permis militaire. On ne peut pas tout demander à l'école non plus. Je changeais tout le temps d'école, quoi. C'est moi qui ai demandé d'aller dans une boîte à bac parce que j'avais rendu mon premier bac blanc. J'étais rendu feuille blanche, donc j'ai demandé d'aller dans une boîte à bac. Puis je me suis retrouvée qu'avec des riches, des fils à papa et tout ça. Voilà.
Moi, je...
Et j'étais pas habituée à ce milieu-là non plus, quoi. Je me sentais bien dans aucun milieu. Ni dans le lycée public où j'étais, parce que j'avais pas à faire. J'étais trop angoissée pour. Parce que ma mère me mettait la pression pour le bac dès l'âge de 5 ans. Et.
Elle était en avance.
Ah ouais. Non, mais déjà, j'avais une note en dessous de moyenne, je disais T'auras pas ton bac. J'étais obsédée par le bac, finalement, je l'ai eu, mais ça m'a jamais servi à rien. Je préférais ne pas avoir de bac et avoir une vie plus. Moins décousue. Et moi, souvent, à Sainte-Marie.
Ben moi, j'étais fille de fonctionnaire et j'ai fini à la ferme. Et croyez-moi, ça a choqué autour de moi.
Et c'était ton choix ?
C'était mon choix, oui.
Et ben, comme quoi, on peut prendre une autre voie ?
Ben ouais, fille de citadin. C'est vrai, c'est vrai.
Bon, mais voilà.
Je sais que moi, mon frère, par contre,
Bon. Chers auditeurs, chères auditrices, on va vous quitter.
Au revoir.
Si vous voulez réagir, allez sur Audioblog Arte Radio Z. Voilà, je vous remercie.
Merci. À la semaine prochaine sur Radio Z.
Mama, that's the realest shit.
Let's talk about love.